Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition des grands entretiens de Storia Voce. Il avait l'obsession de l'excellence, ce qui ne l'empêchait pas dans le monde politique d'être un homme d'une probité exemplaire, voire quelque peu ostentatoire. Il a été ministre à 4 reprises, puis président du Conseil sous la Troisième République, l'équivalent de notre Premier ministre. Enfin, il a été élu président de la République. Rappelé ensuite par 2 fois à la tête du gouvernement après cette présidence, il fut, selon l'expression de Pierre Miquel, je cite, « un monarque sans couronne dont personne n'égalait le prestige ». Quant à De Gaulle, il se moqua de lui en le qualifiant de « commis de premier ordre ». Et pourtant, cet homme, par son abnégation, sut sauver la Troisième République en appelant Clémenceau, son ennemi intime, au pouvoir. Qui fut Raymond Poincaré? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec Georges Valence. Georges Valence, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes journaliste, historien, vous êtes un homme de presse, un homme de radio également. Vous avez publié de nombreux ouvrages, notamment France-Allemagne, le retour de Bismarck, qui a reçu le prix aujourd'hui en 1990, la revanche de l'Allemagne donc, et une petite histoire de la germanophobie. Alors vous vous êtes intéressé à ce personnage qui domine littéralement la Troisième République, et vous commencez votre ouvrage en montrant en quelque sorte la modernité de ce personnage. Poincaré peut éclairer notre temps présent, notre temps politique.
Oui, il y a au moins trois domaines. Il y a sa probité, hein, on a vécu des événements dans notre pays où la probité des hommes politiques a été mise en cause. Lui, c'était vraiment l'homme probe par définition, même avec un peu, comme vous l'avez dit, d'ostentation, puisque quand un journaliste était dans son bureau, il en profitait pour coller ses propres timbres sur les enveloppes. Mais enfin, il était totalement honnête, ce qui était important. La deuxième chose, aussi, qui est très moderne, si je puis dire contemporaine, c'est le problème de la laïcité. Il était laïque, comme il était républicain. Tous les républicains à l'époque étaient laïcs, c'était une définition de la République, mais lui n'était pas anticlérical. Et c'est même au contraire, il était même opposé à la séparation de l'Église et de l'État. Pourquoi? Pas parce qu'il allait à la messe tous les dimanches, il n'allait pas à la messe, sauf à la fin de sa vie. Mais parce qu'il était de famille catholique, très catholique, Lorraine, très catholique. Mais pourquoi? C'est parce qu'il pensait qu'il était bon, que l'État puisse avoir un regard sur l'Église, comme Bonaparte l'avait fait avec le Concordat. Et quand on voit maintenant les débats qu'il y a autour de l'islam, est-ce qu'il faut en France, comment l'État peut-il réguler l'islam? Comment l'État peut-il vérifier le financement des mosquées? Comment peut-il vérifier la formation des imams? C'est exactement le même débat. Alors c'est intéressant de voir que ce débat a été posé au début de l'autre siècle.
Il existait une instabilité de la Troisième République. Est-ce que, alors que nous vivons aujourd'hui dans une forme d'instabilité politique, ce personnage est aussi éclairant?
Oui, alors il y a deux Troisième République. Il y a la République avant la Première Guerre mondiale et la République après. Et encore même, il faudrait même distinguer. Je dirais qu'il y a deux républiques, Troisième République, il y a une République depuis 1875, en gros, jusque 1929, jusqu'à ce que Poincaré quitte le pouvoir. Et ensuite, on observe que le système dérape, que que tout d'un coup la République était aux mains soit des extrémistes de droite, soit des extrémistes de gauche. Et c'est très important. Et on peut dire, et d'autres historiens à l'époque l'ont dit, que si Poincaré n'était pas tombé malade, s'il avait resté au pouvoir un peu plus longtemps, eh bien, par exemple, la crise de 34 n'aurait pas eu lieu il aurait régulé la République.
Le 6 février 34, donc, où les ligues d'extrême droite ont tenté...
C'est-à-dire que chaque fois qu'il était au gouvernement, les ligues disparaissaient quasiment. Chaque fois qu'il n'était plus, elles se reconstituaient.
C'est un sauveur de la République. C'est-à-dire que le il y a un personnage que je connais bien, les auditeurs vont se lasser que je le cite à chaque fois, mais c'est l'époque de Bainville, et Bainville, dans la Troisième République, dans son livre La Troisième République, montre bien que la Troisième République a toujours su trouver des sauveurs, et Poincaré fait partie de cela.
Oui, à plusieurs reprises, d'abord en 1917, à ce moment-là, la République était vraiment très mal, enfin la France était très mal. Le front était au bord de craquer, etc., etc. On connaît la situation en 17. Et il a eu le courage d'appeler au pouvoir Clémenceau. Pourquoi le courage? Parce que il y avait une haine, une véritable haine entre eux. Ils se détestaient. Il faut dire que Clémenceau, qui était quand même un personnage féroce, avait multiplié les bons mots, enfin les bons, les mauvais mots sur Poincaré. Il traitait de tout, de mosasaure, c'est-à-dire d'animal préhistorique né dans la Meuse. Oui, enfin, il le détestait. Et finalement, il a fallu beaucoup de courage pour que le président de la République, qui avait ce pouvoir-là, qui était de présenter le chef du gouvernement, c'est important, la troisième, le président avait un rôle quand même. Et c'est celui-là. Il a appelé Clémenceau. Première chose, et Clémenceau a évidemment sauvé la France. Et la deuxième fois, c'est la crise du franc. Alors pourquoi, quand on parle de la crise du franc en 26-28, où il a sauvé, il a créé le fameux franc Poincaré, on se dit, bon, c'est une crise monétaire classique. Non, il faut se rappeler de l'époque. C'est qu'il arrive 3 ans après la crise du marque. Or, le marque, c'était quoi la crise du marque? C'était que des œufs, un œuf, se vendait 1 milliard de marques. C'est que plus rien n'avait de valeur, plus rien n'avait de sens. Et ça veut dire quoi? Quand une société en est là, elle se délite totalement. Et je pense que s'il n'y avait pas eu la crise du marque, il n'y aurait pas eu Hitler quelques années après. De la même manière, s'il n'y avait pas eu Poincaré, qui a sauvé le franc, qui a redonné confiance dans le franc, c'est-à-dire dans la monnaie, c'est-à-dire dans les économies des gens, eh bien, il y aurait eu sans doute une extension des ligues pré-fascistes en France, et peut-être un régime fasciste.
Alors, on va reparler de ces événements des années 20 et des années 30, mais avant, je souhaiterais qu'on n'en viennent à ses origines. On ne peut comprendre Poincaré sans ses origines lorraines. Et la Lorraine, à l'époque, n'est pas une région comme une autre.
Non, d'ailleurs, ça n'a jamais été une région comme une autre.
Oui, je suis lorrain. Tout spécialement.
Je suis lorrain et j'ai pas tellement bien senti la mentalité et les réflexes de Poincaré. Non, parce qu'effectivement, à ce moment-là, c'est comme l'Allemagne après la guerre, c'est une région coupée en deux. Il y a une Lorraine plus l'Alsace de l'Est qui est devenue allemande malgré elle, et une Lorraine de l'Ouest qui est celle de Poincaré, celle de Bar-le-Duc, qui est restée française.
Donc Poincaré naît en 1860, ce qui signifie qu'il vit les événements de 1870-1871 de très près.
Oui, de très près pour deux raisons. D'abord parce que c'est un enfant, un très bon élève, passionné par l'histoire, d'ailleurs comme souvent sont les Lorrains. Et deuxièmement, parce que sa famille est quand même une famille bourgeoise aisée et intellectuellement avancée. Et son père, qui était ingénieur polytechnicien, qui avait fait polytechnique sous ce contre-empire, son père a envoyé la famille à Dieppe. Pourquoi Dieppe? Parce que la famille avait l'habitude de passer sa vacances à Dieppe, au bord de la mer, c'est pas n'importe quelle famille pouvait le faire à l'époque. Et deuxièmement, c'était l'endroit où depuis la Lorraine, où on pouvait le plus tôt partir pour l'Angleterre. Tellement ils avaient peur de l'invasion germanique qui finalement a eu lieu.
Donc il vit plutôt de loin, comme si le père avait voulu préserver sa famille de cette invasion.
Oui, il vit quand même un peu plus que de loin. D'abord parce que quand il était là-bas à Dieppe avec sa mère, il a fallu revenir. Et ils sont revenus avant que la guerre soit terminée, évidemment. Et ils sont revenus par la Belgique, ils sont revenus par les Ardennes, et ils ont traversé le champ de bataille de Sedan, où il y avait encore le cadavre des chevaux ou le matériel de guerre, les traces d'une bataille. Et il y avait surtout le gamin, il a vu tout d'un coup son pays occupé, l'ensemble de la Lorraine et sa maison sa chambre. Et on l'a déporté, entre guillemets, dans l'appartement de ses grands-parents pour laisser sa chambre, la chambre de son petit frère, où on a un officier prussien, comme il le dit, en disant « je ne dis pas allemand, je dis prussien ». Vous voyez dans quel esprit ?
Le militarisme prussien. Et alors, j'ai découvert, je ne le savais pas, le roi lui-même, Frédéric Guillaume IV, le futur empereur Guillaume Ier, entre dans Bar, la ville dont il est originaire, ce qui est un symbole, pour le coup, oui. qui marque une vie.
Il faut dire que c'est sur la route. Alors, il y a une anecdote très amusante, quand même, justement. Quand le prince, le roi et le prince de Prusse visitent Bernuduc, ils visitent le musée de Bernuduc. Et là, ils sont évidemment guidés, entre guillemets, bien malgré lui, par le maire de la ville. Le maire de la ville qui est de la famille de Poincaré. Et donc, ils sont là, et il y a tout d'un coup, le prince de Prusse s'arrête, et devant un maréchal d'Empire, le premier empire. Et il dit, qui c'est ? Et le parent de Poincaré dit, ah, mais c'est Oudinot, le maréchal qui a été le gouverneur de Berlin après la bataille d'Iéna. Et ça, c'est ce que le gamin raconte dans son livre.
Ouais.
Tous les jours, il écrit. Tous les jours, il écrit. À 7 ans, il commence à écrire, vous imaginez ? Et il écrit très bien le français. J'ai relu tous ses textes, parce qu'on a tout conservé. Et c'est maintenant à Paris, chez les avocats parisiens. C'est amusant, ça. Fait justice, mais enfin, il écrit très bien. Il fait de gros efforts d'écriture. Il n'y a pas de photographe. À l'époque, à 7 ans, on connaissait l'orthographe. Et il raconte tout ça comme ça. Il raconte les sonneries des Allemands qui traversent les rues, enfin, oui, toute l'ambiance d'une occupation militaire.
Alors, est-ce qu'il entretiendra du fait de ces épisodes, de cette forme de traumatisme, une germanophobie ?
Je crois qu'il y a un peu de germanophobie. D'abord, une chose, c'est qu'il n'a pas vraiment, il ne s'est jamais vraiment intéressé à bien connaître l'Allemagne. Ça, on peut lui reprocher. Contrairement à d'autres intellectuels. Par exemple, Clemenceau allait au zoo en Allemagne. Il parlait avec des Allemands. Lui, il n'y allait jamais. Il était une fois quand il était jeune avec ses parents, vous imaginez. Mais non, il a pas fait. Mais germanophobie, il le montre dans un livre, dans une lettre, justement, à une de ses nièces. Où il dit que alors tu as lu tes livres, tu le trouves formidable et tu as raison et c'est un livre extrêmement anti-allemand. C'est oui.
Oui. Et il vous citez une dissertation de lycéen qui a pour sujet la morale s'applique-t-elle aux nations comme aux individus, ce qui pose bien évidemment le problème de la guerre. Et donc, on sent à travers... Et là, il ne parle même pas de l'Allemagne, il parle de la Prusse, puisque l'Allemagne n'existait pas, finalement. L'Allemagne n'existait pas encore, l'Empire allemand n'existait pas.
Non, quand il fait cette dissertation, l'Allemagne existait,
oui.
L'Empire existait.
D'accord, oui.
Il fait exprès d'appeler la Prusse, que la Prusse, elle est symbolique de la volonté d'extension sur l'Allemagne. Et là, pour lui, la Prusse a envahi l'Allemagne, enfin le reste de l'Allemagne, et en plus après la Lorraine, etc.
Et alors ce qu'il y a d'incroyable, c'est que on comprend que... En dépit de sa jeunesse, il apparaît comme une sorte de prophète parce qu'il dit, alors sans être aussi explicite que je vais l'être, mais une prochaine guerre est possible.
Oui, 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 parce qu'il est persuadé de la volonté hégémonique de l'Allemagne, puisqu'il fixe même les frontières. Il dit l'Allemagne, la Prusse, elle a commencé à confisquer les régions allemandes du Rhin. Ensuite, la Prusse, elle a confisqué l'Alsace et la Lorraine. Et la prochaine fois, après la prochaine guerre, elle voudra prendre Bar-le-Duc, etc., et arriver jusqu'au Mont Faucy. C'est lui qui cite. À l'époque aussi, il y a peu d'élèves qui, à 10 ans, 12 ans, là, qui connaissent les Monts Faucy.
Alors, quel type de jeune garçon est-il ? Est-ce que vous parlez du fait qu'il écrive très bien, qu'il lit, qu'il est issu d'une famille bourgeoise, mais c'est un garçon qui ne se laisse pas faire ?
Ah oui, il est d'abord assez moqueur, et il n'a pas un très très bon caractère. D'ailleurs, il n'aura jamais un bon caractère. Vous savez, on le surnommait Poincarogne, puisqu'il se mettait en rogne. Et déjà gamin, il se met en rogne.
Alors, il y a la. Évidemment, on peut faire énormément de jeux de mots avec avec son nom. Je croyais que Cicéron, ce n'est pas Poincaré, et je croyais que ce mot était de Léon Daudet, mais en fait, pas du tout. Il date de sa jeunesse.
Absolument. Cicéron, c'est pas carré, oui, bon.
Et alors. Est-ce que c'est un garçon? Donc c'est un garçon finalement qui sait se défendre, c'est-à-dire que on se moque facilement de lui, mais il sait s'imposer.
Ah oui, tout à fait. Mmh. Ah oui, mais c'est pas du tout un petit garçon. Là, il est bagarreur. Mmh. Il est bagarreur, moqueur et entraîneur d'hommes.
Alors malgré tout, vous montrez dans votre ouvrage que donc il grandit bien évidemment, il doit songer aux études et vous le présentez. Face à une crise, à même une triple crise, une crise de vocation, soulignée par la vice, une crise d'adolescence, avec la fin d'une enfant choyée, et aussi une crise spirituelle, marquée par la perte de la foi religieuse.
Oui, c'était une famille, comme je disais, très catholique. Mais enfin, du côté de la mère, comme très souvent à l'époque, le père était agnostique. Mais laisser la mère s'occuper des enfants, de l'éducation religieuse des enfants.
Et c'est pour ça que les femmes ne devaient absolument pas voter, parce qu'elles étaient trop religieuses.
Mais oui, alors ce qui est intéressant, c'est que précisément, le père insistait pour qu'il parte au lycée Louis le Grand à Paris.
Oui.
Pour qu'il échappe justement au prof de philo du lycée de Bar-le-Duc, qui était encore un prêtre. C'est amusant à ce moment-là, oui. Donc, et effectivement, le gamin, notamment sous l'influence d'un des plus grands esprits de la France de l'époque, Poincaré, Henri Poincaré, le cousin germain, qui fait ses études à Paris, qui est à l'école des mines, qui s'occupe de son petit cousin, et sous l'influence d'Henri Poincaré, rationaliste s'il en est, il a perdu la foi religieuse.
Mmh. Il y a Henri Poincaré qui était un mathématicien, un grand scientifique.
Un des plus grands.
Mmh. Mais son positivisme, parce qu'il s'agit de positivisme, ce qui est classique à l'époque.
À l'époque,
c'est un positivisme modéré.
Comme toujours, c'est un modéré. Je veux dire, c'est un républicain modéré. D'ailleurs, il y a quelque chose de très amusant dans sa vie, et on voit très bien, c'est que il a toujours pensé la même chose. Il a toujours pensé qu'il était, comme il dit, républicain, fils républicain, toujours républicain, la Ligue, etc. et tout. Tout ça. Mais toujours anti-marxiste. Ça, c'est très net chez lui. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne s'est pas, enfin, il s'est peut-être rendu compte, mais dans tous les cas, il n'a pas voulu se rendre compte, dans les textes et tout, que l'époque avait changé. C'est-à-dire que sa position, lui, a pensé toujours la même chose, un peu en lorrain, mais un peu, hein. Mais l'époque a changé. C'est-à-dire que ce qui était de la gauche, vraiment de la gauche, en 1880, était devenu du centre, presque du centre droit, en 1920. Mmh. Alors, ça, il est toujours un malentendu. On le traite d'homme de droite, mais lui n'a pas changé d'opinion. Mmh. C'est le temps, l'époque.
Le temps politique, oui. Alors, pourquoi le droit? Parce qu'il se dirige vers le droit.
Alors, d'abord les lettres. D'abord, les lettres. Parce que, comme souvent les jeunes gens, même, je crois, le nouveau président français, il a rêvé d'être écrivain.
Les grands hommes politiques sont souvent des grands écrivains.
J'ai fait aussi une biographie, a toujours rêvé d'être écrivain, d'ailleurs, il est devenu.
Napoléon voulait être écrivain.
Et puis, Emmanuel Macron, c'est intéressant. Il a écrit un roman. Mmh. Oui, tout ça n'est pas à cause de hasard. Donc, il voulait être écrivain. Il a compris très vite qu'il n'en sait pas. Et il a oublié, il a mis de côté les existences éphémères, hein, Bainville, c'est Bainville. Mmh. Et ça, et tout d'un coup, bon, il s'est dit, non, je ne suis pas un écrivain, je ne serai jamais Flaubert. Donc, comme je ne serai pas Flaubert, qu'est-ce que je deviens? Et c'est là qu'il a choisi le droit étant à l'époque la matière que l'on faisait quand on ne sait pas ce qu'on allait faire. Parce que si on faisait l'être, on devenait professeur, et si on faisait, voilà. Donc c'était soit, pour un gars comme ça, quand même, qui était un bon élève, soit on faisait normal sup, soit on faisait polytechnique, soit on faisait droit. Polytechnique, à un moment, il y a pensé. Son père, qui était polytechnicien, il a poussé. Mais finalement, non. Donc il a pris droit, parce que le droit, c'est la chose qui vous permet de retarder le choix de votre carrière.
Alors c'est très marrant, parce que Il y a eu aussi à un moment chez Bainville une crise existentielle, et moi je lui ai répondu tu seras écrivain comme les Pitis disaient à leurs protégés, tu seras Dieu, ou je ne sais plus quelle est la citation exacte, mais il renonce aux existences imaginaires, oui, mais ça. Il est quand même il écrit un peu à droite à gauche, il est journaliste,
oui. Mais journaliste, donc, ce n'est pas écrivain.
Tout à fait.
Je m'y connais.
Tout à fait. Mais c'est un trait de sa personnalité. Quand il s'engage dans quelque chose, il le fait véritablement jusqu'au bout. Et on sent à vous lire que c'est un grand travailleur sur le plan du droit. Quand il est avocat, il travaille ses dossiers à fond.
Ah oui, c'était un des grands avocats, c'était un des premiers avocats d'affaires. C'est un des premiers qui a pris les dossiers d'affaires, etc. Vous voyez, il n'aimait pas trop, il n'a pas fait de pénal quasiment. Très peu, il ne faisait pas de pénal. Il traitait surtout par exemple, il s'occupait par exemple, oui, sa spécialité notamment, c'était s'occuper des écrivains. Parce que ça le rapprochait du monde qu'il voulait faire. Et il a même organisé la succession des Goncourt, quand même, important à l'époque. Du coup, il est devenu ami, évidemment, des membres d'académie et puis des autres écrivains.
Il s'est créé un véritable réseau. Est-ce que c'est par ce réseau qu'il arrive dans le monde politique?
Non. Alors, évidemment, l'intérêt, etc. Non, il est arrivé dans le monde politique par sa famille, enfin, par le réseau familial. C'est-à-dire que en Lorraine, à Bar-le-Duc, il y avait une grande famille meusienne qui s'appelait les Develle. Et les Develle, ils étaient deux frères. Un était député, l'autre était président du conseil général. Vous voyez, donc, enfin, il tenait la politique française, la politique locale. Et il la tenait au nom, évidemment, de la République. C'était des, comme on disait à l'époque, des opportunistes, c'est-à-dire l'école de Jules Ferry. Et donc, ces gens-là, ils connaissaient bien la famille, hein, une bonne famille, etc. et tout. Et la famille avait un gamin. qui travaillait bien, qui avait très bien à l'école, qui était un avocat émérite, hein, qui a vraiment réussi tous les concours et droit, qui est un grand avocat. Et finalement, un jour, Develle devient ministre d'agriculture, il lui faut un chef de cabinet, il prend qui? Il prend évidemment le petit jeune de la famille ami. Donc, à partir de là, au bout de 6 mois, il se trouve qu'il y a un décès, hop, conseiller général, il devient conseiller général. Après, élection, hop, il devient député. Tout ça, organisé par les républicains de l'endroit et les républicains opportunistes. Opportunistes, c'était pas du tout péjoratif à l'époque, dans ce sens-là.
Tout à fait. Mais donc, est-ce qu'il éprouve une forme de passion? Chez lui, ce sens du bien commun, ou est-ce qu'il a aussi, ça peut être, ce souvenir de ce qu'il s'est passé dans sa jeunesse et qui l'amène à vouloir jouer un rôle politique?
Oui, les deux. Les deux, et vraiment, il s'est beaucoup occupé de la circonscription des gens, etc. Et à Paris, et c'est intéressant, quand il était député à l'Assemblée nationale, il s'est beaucoup occupé des affaires économiques budgétaires. Ce qui prouve, il ne sait pas, par exemple, il n'a pas demandé, il n'a pas cherché à être ministre de la guerre, ministre de l'intérieur, etc. Et tout. Vous voyez, il a vraiment, ni les affaires étrangères, il a vraiment, il s'est spécialisé très vite dans les affaires monétaires, enfin budgétaires, puisqu'à l'époque, les affaires économiques, au niveau de l'État, c'était essentiellement le budget. C'était pas comme maintenant, il n'y avait pas de... toutes les...
Est-ce que il devient d'abord ministre? La première fois qu'il est ministre, c'est ministre de l'instruction publique, c'est bien ça?
Oui, parce que...
Et alors, il y a une anecdote complètement extraordinaire où il arrive et il demande le cabinet du ministre, et on lui dit qu'il n'est pas encore formé, en fait, c'est lui qui doit
le
former.
C'est lui, oui, parce qu'il est tout jeune et tout. Non, et alors, c'est intéressant, parce que pourquoi il commence par l'instruction publique? C'est parce qu'il refuse les finances. Il s'est déjà fait remarquer par 2 ou 3 discours sur les affaires financières. Et il y refuse par modestie, en disant « non, je ne suis pas mûr pour ça ». Et il prend l'instruction publique.
En revanche...
L'instruction publique, budget très important à l'époque, puisqu'il s'agit de construire les milliers d'écoles de Jules Ferry. Donc il y a un budget, il y a de l'argent, et puis l'affaire est au cœur de la République. l'instruction publique avec laïcité.
Mais c'est là où il ne se montre pas idéologue.
Non, absolument pas. Absolument pas, dans ses réformes, etc.
Alors, il devient finalement ministre des Finances, et vous le présentez ministre des Finances à la fois draconien, conservateur, libéral.
À la rigueur, la rigueur. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est pas pour rien, quand Raymond Barre parlait d'un ministre des Finances qui avait réussi, enfin, qui avait fait son travail, disons, c'était Poincaré. Giscard d'Estaing était ministre des Affaires étrangères, des Finances de Gaulle, eh bien, c'est la seule fois... Enfin, ça, c'est un truc intéressant. Vous savez que dans l'histoire de France, dans le même total, il y a eu peu d'années où le budget était excédentaire. Très peu. Sous les rois, quasiment jamais. Peut-être un peu, sans doute, sous Sully. Donc, là, en revanche, il y a eu 4 fois... Quand Poincaré était ministre, il y a eu un budget excédentaire. Et il y a eu 4 fois sous Poincaré et 1 fois sous Giscard au temps de Gaulle. C'est tout. Maintenant, non.
Et alors, il y a la question de l'impôt sur le revenu, sur laquelle je ne reviendrai pas. Mais en revanche, on sent que c'est un personnage qui est important parce qu'il montre dans une république qui commence à être en crise, qui est marqué par des scandales, il donne, lui, cette image de probité dont la République, dont la Troisième République a besoin à cette époque.
Il y a beaucoup, beaucoup de scandales, il y a eu Panama, enfin, oui, mais non, je vais revenir quand même sur l'impôt sur le revenu.
Je vous en prie.
Sa position est assez intéressante, parce que on la présente uniquement sur le thème, il veut pas taxer les riches, quoi. La vraie raison qu'il a d'être contre, c'est qu'il redoute que l'impôt sur le revenu aboutisse à l'inquisition. Il disait, soit avec les moyens techniques qu'on a de vérification, soit les gens passent à travers, c'est injuste, soit ils sont frappés de n'importe quelle manière, et c'est injuste. Or, c'est vrai que la question pouvait se poser, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas les moyens techniques. Vous imaginez, l'administration n'avait pas les moyens d'instaurer honnêtement un véritable impôt sur le revenu. Donc la question pouvait vraiment être objectivement posée.
Alors ce n'est pas un homme d'argent. Il y a de vos meilleurs chapitres, c'est qui est vraiment Raymond Poincaré, où vous montrez justement cette probité. Je vous cite, il ne fait pas payer des clients qui le dédommagent en notoriété, comme les académiciens Goncourt. Il en rembourse d'autres dont il refuse de plaider l'affaire, même s'il a déjà passé beaucoup de temps à l'étudier. Il pratique des rabais lorsque le dossier est plus facile que prévu. Il renvoie ainsi un jour un chèque de 50 000 francs, ce qui est énorme à l'époque, et en demande un de 10 000. Vraiment, c'est un homme qui... il a cette probité, oui, que n'ont pas forcément les autres à une époque de scandale.
Oui, mais il faut dire aussi que quand même, bon, évidemment, quand il prend le métier d'avocat, c'est aussi pour gagner de l'argent. Dire parce qu'il sait. Alors ça, c'est il y a une comparaison avec notre époque. Quand on voit maintenant que Emmanuel, le nouveau président de la République en France, a déclaré qu'il est allé dans la banque parce qu'il voulait assurer ses arrières financiers pour ne pas être prisonnier de la politique, et tout, c'est exactement la situation. C'est-à-dire qu'à un moment, il a même interrompu quasiment sa carrière politique pour se faire un peu d'argent, pour avoir un niveau de vie suffisant pour ne pas être compromis, etc. Parce que quand on ne gagne pas d'argent, quand on n'a pas d'argent, on peut être, hein, tout le monde n'est pas comme ça, on peut être tenté d'accepter des cadeaux. Et lui, il ne voulait pas. Donc, il voulait gagner de l'argent. Il gagnait de l'argent avec son cabinet. C'était pas un homme d'argent au sens, il n'était pas rapier, etc. Mais c'était un homme d'argent au sens où il voulait être indépendant, avoir une vie normale, normale de bourgeois et tout, grâce à un métier qui lui rapporte.
Alors il a des qualités, mais il a aussi des défauts. Vous
le
montrez parfois.
Si.
Parfois il est même odieux. Il va jusqu'à gifler. Vous racontez l'anecdote. Il gifle un manchot, ni plus ni moins. Donc c'est un homme, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un homme qui sait ne pas se laisser faire et qui a du caractère. Oui. Mais ce n'est pas Clémenceau. Il n'a pas le caractère de Clémenceau.
Non, non, il n'est pas prime soutien comme Clémenceau, et il n'a sans doute pas l'incroyable générosité d'âme de Clémenceau. Par exemple, quand on regarde, il s'intéresse, comme les gens cultivaient à l'époque, beaucoup à l'art, mais il n'en parle jamais avec les accents que Clémenceau utilisait pour parler de Monet. Mmh. Et c'est totalement différent. Mmh. Dire, c'était pas du tout c'était pas un grand artiste, enfin il n'avait pas une passion pour l'art. D'ailleurs, quand on voit les œuvres d'art qu'il avait achetées pour mettre chez lui, il n'a pas acheté les œuvres qui après ont grimpé, hein. Mmh. Ça, il a raté son époque là-dessus. Mmh.
Alors il s'est peut-être aussi anticonformiste, vous le montrez à travers son mariage.
Alors ça, c'est intéressant. Mmh. Ça, c'est vraiment, et c'est même assez émouvant. Il faut se remettre dans l'époque. À l'époque, quand on était un jeune homme comme lui, enfin, disons 40 ans, hein, 35, 40 ans,
et qu'on se mariait tard.
On se mariait tard, et on se mariait avec une jeunette de 20 ans, et surtout une jeunette qui, dont les parents peuvent fournir une belle dot. C'était la contrepartie du fait qu'elle épousait un homme politique important. Marché dans le marché bourgeois classique. Et lui, alors tous ses copains font ça. Tous. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il épouse une femme plus âgée que lui, qui ne peut plus avoir d'enfant. C'est important. C'est à l'époque très important. Et qui n'a aucun argent, hein, qui garde des vieilles personnes, en décompte, et qui est italienne d'origine. À peu près tout
pour le contraire.
Voilà. Oui. Et ça, c'est intéressant. Et il est vraiment très amoureux. Et ils ont resté toute leur vie, etc. Et tout. Alors, c'est très intéressant. C'est l'anticonformiste parfait dans sa vie personnelle. Sur ce domaine, dans le domaine de l'amour.
Est-ce que ce n'est pas un personnage qui, en dépit de cet anticonformisme, est trop prudent dans sa vie politique?
Peut-être, mais je voudrais quand même souligner que c'est le contraire qu'on lui a reproché. Hein.
C'est le contraire qu'on lui a reproché.
Oui, non, sur un point essentiel. Oui. On lui a reproché une imprudence qui aurait conduit la France à la Première Guerre mondiale. Or, c'est précisément le contraire. Effectivement, heureusement qu'il était prudent. Heureusement, à l'époque, vous aviez quand même une Allemagne relativement menaçante, une Russie instable, et une Europe centrale instable aussi. À ce moment-là, il fallait avoir à la tête des pays des gens extrêmement raisonnables, calmes, etc. C'était son cas. Et contrairement à ce qu'on dit, il n'est pas responsable de la guerre 14-18, c'est pas vrai. Il a tout fait pour l'éviter. Simplement, il a fait en sorte qu'on soit le mieux armé possible, d'où l'attachement total qu'il avait avec la loi des 3 ans. Je ne juge pas de savoir si c'était bien ou mal, juger 3 ans. Simplement, ce que je montre, c'est que lui, il tenait énormément, en faisant vraiment le cœur de la politique à ce moment-là, parce qu'il pensait qu'on pouvait être menacé, attaqué à n'importe quel moment par l'Allemagne, qui, elle, avait une démographie beaucoup plus forte que la nôtre.
Est-ce que un moment se pose la question du point carré, ce qui n'est pas une question d'ailleurs, c'est il se sent un peu à l'étroit et il développe ses propres idées, ses propres termes que l'on a appelé le point carré. Comment définir ce point carré?
Oui, c'est intéressant parce que c'est un homme qui, comme certains à notre époque, mais pas toujours, qui aime bien exposer ses idées par écrit, par discours, mais par écrit, dans des revues. Il écrit énormément. C'est-à-dire que, oui, il exprime vraiment bien sa pensée. Point carré, c'est évidemment la République, c'est très important. Hein. La République, vraiment, contre les royalistes, etc. Et tout, parce qu'il est très républicain, hein, faut pas le... Il est très républicain. C'est aussi, bon, évidemment, la force du pays, l'armée, etc., face à la menace étrangère, en clair, la menace allemande. Et c'est la rigueur budgétaire, oui. Mais aussi, par exemple, il a toujours eu une politique sociale. Il a toujours compris que un système ne pouvait pas tenir s'il n'y avait pas de contrepartie sociale pour les ouvriers, etc. Et tout. D'où, en 26, on a tout le temps oublié ça, c'est lui qui a créé les allocations, les assurances sociales. Vous vous rendez compte? L'homme de la rigueur monétaire est le créateur du premier système de sécurité sociale.
Il arrive à l'Élysée. Alors, l'Élysée, c'est une... Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas les institutions, l'Élysée, à l'époque, ce n'est pas du tout le président que l'on peut avoir aujourd'hui. On s'en moquait un peu en disant qu'il inaugurait les chrysanthèmes, mais...
Le mot est venu de De Gaulle plus tard.
Exactement. On comprend pourquoi, avec la Ve République. Mais lui, il tient à vraiment agir et d'ailleurs vous divisez très clairement son action en plusieurs périodes, en trois périodes, et il y aura une période où il aura cette abnégation, c'est la dernière période où il aura l'abnégation de se mettre en retrait pour permettre à Clémenceau de faire la guerre alors qu'il aurait pu en période de crise, c'est-à-dire en 1917 pendant la Grande Guerre. Je vais pas dire faire un coup d'État, mais donner une impulsion au régime que De Gaulle donnera bien plus tard.
Oui, non, et pour une raison assez simple, c'est un juriste. Et il avait compris que la République ne pouvait subsister, parce que il faut se mettre aussi dans l'esprit de l'époque. À l'époque, les républicains pensaient que le régime était toujours menacé. D'ailleurs, en 40, elle était, non mais c'est pas si à fond que ça, maintenant on n'y pense pas, mais à l'époque on y pensait, il y avait l'Action française, etc. Enfin, il y avait des tas de gens qui voulaient avoir la peau de la République, hein. Ça existait, il y avait vraiment un parti anti-républicain, et lui donc il était républicain, il peut toujours partir de là, et donc il savait, enfin il pensait que elle ne pouvait subsister que si, notamment en temps de guerre, que si elle respectait parfaitement ses institutions. Pourquoi ? Vous imaginez, justement, c'est intéressant, cette proposition, y compris des gens de gauche, des socialistes, leur proposer de cumuler son poste de président avec celui du président du Conseil pendant la guerre, là, en 17. Et lui, il a dit non, pour une raison profonde, enfin, c'est que s'il a accepté ça, il donnait des arguments à ceux qui voulaient la fin de la République. Mais qui c'est ces gens-là ? C'était notamment des généraux. Il y avait des généraux, Castelnau et tout, qui étaient au combat, qui se battaient courageusement. Mais qui pensait que la République avait mis le pays dans cette guerre affreuse, et si jamais la République s'était permis le moindre coup d'État, même, plus que eux auraient fait le coup d'État. Et ça, il le savait. Il savait que, et ça, c'est très intelligent de sa part, et très courageux et très civique. Il savait que si les républicains ne respectent pas leurs propres lois, eh bien, d'autres imposeraient leur loi.
Alors, avant cette partie, cet épisode Clémenceau, il prépare à la guerre, parce qu'il la sait inéluctable. Hein, vous décrivez cette fameuse dépêche qui passe par la Belgique, où il y a une rencontre entre le roi des Belges et, si mes souvenirs sont bons,
le Kaiser,
où le Kaiser dit que la guerre avec la France sera inévitable. On est en 1913, si mes souvenirs sont bons. Donc, il prépare la France à la guerre, mais il n'y a pas de déterminisme chez lui. C'est-à-dire que... La pente est inévitable, mais est-ce qu'il garde le souvenir toujours des Allemands pendant sa jeunesse qui étaient en France ? Est-ce que il cultive cette germanophobie ? Au fond, vous y avez répondu tout à l'heure, par point carré la guerre, vous refusez l'idée d'un point carré la guerre.
Bon, il faut se dire aussi qu'il se rappelle d'une chose, c'est que la guerre de 70 qui a conduit quand même au désastre et à la perte de deux régions, a été provoquée, a été voulue par l'empereur, par le pouvoir personnel. Et ça, qui avait laissé la France seule, ça a été son obsession. C'est que si la guerre nous était imposée, il ne fallait pas qu'on soit seul. Et regardez, en 13... Justement, en 13, quand il y a eu une des XIème guerres des Balkans, eh bien, il a réussi, la France, le rôle de la France avec les Anglais, mais surtout la France, a réussi à provoquer une négociation avec une conférence d'ailleurs internationale qui est passionnante et qui pourrait se retrouver un jour pour des crises comme celle du Moyen-Orient. Dire que tout d'un coup, grâce à la France, à l'Angleterre et au Kaiser et à l'Allemagne, il y a eu deux conférences parallèles à Londres pour régler la crise qui se promène. Il y avait une conférence des puissances et dans un autre immeuble à Londres, à la conférence des pays concernés, avec des messagers. Donc les puissances disaient, bon, ça suffit maintenant, vous arrêtez vos plaisanteries. Et comme les puissances se sont mises d'accord, il n'y a pas eu la guerre. En 13, la France et l'Allemagne, ensemble, ont évité la guerre. Et en 14, il y avait le même espoir. C'était pas, comme vous dites, il n'y a pas de déterminisme. On pouvait fort bien éviter. Et il faut se dire que même s'il était germanophobe, même s'il l'était, il pouvait pas vouloir la guerre en 14. Parce qu'il connaissait, il avait un rapport sur l'état de l'armée française, qui était bien inférieur à l'armée allemande, notamment en termes d'artillerie, etc. et tout. Il savait que la France venait d'accorder un prêt formidable, un nouveau prêt formidable à la Russie pour que la Russie installe rapidement des chemins de fer, des lignes de chemin de fer qui lui permettent d'amener ses troupes à la frontière allemande, polonais-allemande, depuis Moscou, depuis ailleurs. Donc la Russie n'était pas prête. Personne n'était prêt en 14, sauf l'Allemagne. Donc il faudrait penser qu'il était totalement stupide pour penser qu'il voulait la guerre en 14. S'il la voulait, ce qui n'est pas prouvé, s'il la voulait un jour, c'était en 17. Les études faisaient que, les Allemands eux-mêmes disaient que les autres, que les Français et que les Russes seraient prêts, les Russes surtout. Parce qu'il faut, on a oublié une chose, c'est que les Allemands regardaient aussi très attentivement la situation de la Russie. Et vu les efforts français d'armement, etc. et tout, ils étaient persuadés qu'à un certain moment, la Russie deviendrait imbattable. Et qu'il fallait, pour eux, faire la guerre avant que la Russie devienne imbattable. Plus même que la France. Hein.
Est-ce que, Georges Valence, nous arrivons peu à peu au terme de cette émission. Alors, il y a bien d'autres sujets que nous pourrions aborder, notamment sa position par rapport au traité de Versailles, où il n'est pas satisfait, au fond, de ce traité. Il y a une lucidité politique chez lui qui le distingue, finalement, de ses collègues. Comment expliquer le fait que dans l'histoire, il fait partie de ces personnages qui ont été un peu oubliés, qui ont été un peu mis de côté?
D'abord parce qu'il s'est trouvé, c'est un peu comme, si vous voulez, un petit peu Pompidou vis-à-vis de Gaulle. Il a été un peu effacé par la personnalité extrêmement exubérante de Clémenceau. Ça joue. Clémenceau a réussi ça, et puis les soldats. Clémenceau, le père de la victoire, etc. et tout. Donc, quand vous avez un personnage comme ça, vous êtes un peu effacé. Et deuxièmement, sa personnalité faisait ça. Lui, ne faisait jamais sa pub. Si on peut dire, oui, c'était pas un homme de pub. Il n'allait pas dire à un moment. Et il était il était assez modeste. C'était un homme de droit. Oui,
je vous en prie.
Non, je crois que c'est un peu pour ça. Et en plus, alors après, par exemple, vous avez cité De Gaulle. Alors, le passage est intéressant. Mais d'abord, j'aurais aimé savoir s'il était réécrit, parce que les écrits de De Gaulle, faits à l'époque, ont pu être un peu corrigés après, hein, normal, hein, quand ils sont publiés, par l'auteur même. Hein. Mais surtout, c'est que De Gaulle est assez injuste. Et pourquoi il est injuste? Parce qu'il ne peut pas supporter, il ne peut pas admettre qu'un président de la République, style troisième, quatrième, puisse faire des choses positives. Et quand on lit bien le texte, quand on connaît le mépris que De Gaulle avait pour les présidents de la République de cette époque-là, c'est presque une louange qu'il fait.
Oui, donc il y avait une forme d'idéologie chez lui. Est-ce que le patriotisme peut être un écho aujourd'hui pour notre temps, le patriotisme de Poincaré, cette mesure qu'il avait à la fois dans son amour de la République, dans son respect de la laïcité, et il y a la troisième partie de ces deux devises, République, laïcité, mais aussi patriotisme. Est-ce que le patriotisme, son patriotisme, n'est pas suranné pour aujourd'hui ?
Sans doute, en partie, mais je crois qu'il y a des modes. Et actuellement, la mode est de considérer un peu le patriotisme comme quelque chose d'un petit peu, oui, suranné. Mais je pense, enfin, il me semble encore, et je vérifie, par exemple, avec mes enfants, les amis de mes enfants, etc. et tout, les Français restent très attachés à leur patrie. C'est pas la mode de le dire, faut pas trop le dire, mais ils restent très attachés à leur patrie. Je pense, bon,
évidemment. Alors, le terme a été utilisé par Emmanuel Macron dès le soir du premier tour.
Oui, donc c'est intéressant aussi qu'il a osé utiliser ce terme-là. Ça prouve que le terme n'est pas complètement oublié, et surtout qu'il a gagné.
Mais écoutez, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Valence, d'avoir répondu à notre invitation. Donc, Georges Valence, Poincaré, une biographie parue chez Perrin, donc qui est partenaire de Storia Voce. Je tiens à remercier Amandine Dumas, qui m'a aidé à préparer cette émission. Un salut amical aussi à la technique, Georges, toujours fidèle. Et vous, chers auditeurs, je vous remercie également pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition des grands entretiens de Storia Voce. Merci et à très bientôt.